Bien, bonsoir mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue pour cette dernière conférence de la journée et du salon. Je ne sais pas si vous avez fait toutes les précédentes, j'espère pas pour vous, parce que sinon vous allez finir sous les chaises. Mais... je m'appelle Marc Tantillé. Rapide présentation, j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. Et pour vous donner une petite idée de mon parcours, j'ai eu un parcours scientifique, j'ai fait des études scientifiques, j'ai été diplômé d'une grande école d'ingénieurs française, et j'ai commencé à œuvrer dans le monde de la finance, puisque j'ai travaillé dans une filiale d'une grande banque française pendant 20 ans. En parallèle de ça, à la suite, en 2003, d'un traumatisme personnel important, j'ai commencé à essayer de donner un sens à ma vie. Alors là, vaste entreprise. S'en est suivie une période de recherche, d'interrogation, de questionnement, d'essai, de déception, de joie, de belles rencontres, enfin voilà, de plein de choses. Je vous la fais très très courte, qui m'a amené 10 ans plus tard à m'installer en tant que thérapeute, et ce qui me permet aujourd'hui de me présenter devant vous en tant que thérapeute, parce que si je me présente en tant que financier, je pense que vous allez tous partir. ou alors c'est que je me suis trompé de salon. Mais voilà, je suis aujourd'hui thérapeute. J'ai créé il y a 3 ans maintenant un centre de développement personnel et spirituel que j'ai appelé les Chemins de l'âme, et dans lequel je pratique et je forme également à certaines pratiques thérapeutiques. Et les pratiques que j'utilise sont différentes formes d'hypnose, dont je ne vais pas vous parler ce soir, et le channeling énergétique, dont je vais vous parler ce soir. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va laisser passer l'annonce. Voilà, bon, chez nous, ça a déjà commencé. Hein, donc si vous voulez, je vous fais la petite annonce avec la voix d'hôtesse de l'air, mais... Toum, toum, toum. Bon. Rapidement, un petit sondage. J'aimerais savoir qui dans la salle a déjà été témoin, a déjà pris conscience que il ou elle adopter, enfin rencontrer, soit chez quelqu'un d'autre, des comportements répétitifs, des schémas répétitifs, en se disant mais pourquoi je fonctionne toujours comme ça ou pourquoi il m'arrive toujours ce genre de choses. Alors, voilà, moi aussi, pas mal de monde. Deuxième petite question de mon sondage. Qui a déjà expérimenté des réactions émotionnelles, mais des réactions émotionnelles particulièrement fortes par rapport à l'enjeu réel, dans des situations où normalement on ne devrait pas être trop concerné et pouf, ça part en vrille. Ouais, aussi. Et troisième et dernière question, qui a déjà ressenti un très fort sentiment d'injustice dans une situation de choc, que ce soit un choc physique, émotionnel, voilà. Mais pourquoi il m'arrive ça à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Voilà. Ouais. Madame, plusieurs fois, visiblement. Voilà. Eh bien, alors déjà, je peux vous rassurer sur un point. Toutes les personnes qui ont levé la main ou les mains, c'est-à-dire à peu près tout le monde dans la salle, eh bien, vous êtes juste normaux. Parce que c'est ce qu'on traverse tous dans notre vie. Des moments, des expériences, des situations dans lesquelles il se passe quelque chose, on ne sait pas trop quoi, on réagit de manière disproportionnée, on ne se maîtrise plus, ou alors on attire des choses à soi et on se demande bien pourquoi il nous arrive tout ça. Et bien en fait, tout ça fait appel à des mémoires, à des blocages qu'on a en nous, mais dont on n'a pas conscience. Et donc, toutes ces expériences, ce sont des choses qui nous dépassent, qui au final nous pollue l'existence et surtout dont on peut se libérer. Et donc c'est là qu'on va intervenir et que je vais vous parler du channeling. Alors, avant d'arriver dans la partie soins, quelques mots sur la manière dont ça peut s'exprimer, dont ça peut se manifester dans notre quotidien, ces situations difficiles. Alors, il peut y avoir plein de types de manifestations différentes. Je ne vais pas vous en faire une liste exhaustive. J'ai juste essayé, sur la base de ce que je rencontre en consultation, de faire une petite cartographie et j'ai identifié trois grandes familles de situations difficiles. Tout d'abord, tout ce qui a trait au corps, tout ce qui se manifeste physiquement dans le corps. Donc bien sûr, les douleurs, les maladies, les malaises, etc., etc. Donc, à partir du moment où ça vient se manifester dans le corps, parce que je pense que probablement vous savez que ça vient pas, ce qui nous arrive comme maladie, comme bobo, etc., ça vient pas de l'extérieur, c'est pas la faute du virus, mais c'est chez nous que ça se passe. Si on a attrapé ce virus-là, c'est bien parce que il y a quelque chose chez nous qui est allé le chercher parce qu'on avait quelque chose à faire avec ce virus. Alors, tout ce qui est manifestation physique, il n'y a pas que les maladies graves, hein, ça va du petit bobo jusqu'à la maladie vraiment très grave. Ce qui est important, c'est de s'en occuper. Alors, et s'en occuper, y a deux manières de s'en occuper. Il y a la manière, j'ai envie de dire, immédiate et classique, on va soigner la maladie. Alors après, vous choisissez le type de soin qui vous convient. Hein, ça peut être allopathique, ça peut être homéopathique, ça peut être plein d'autres choses. Mais en faisant ça, on s'occupe du symptôme. Ce qui est déjà pas mal. Et puis, il y a l'autre manière complémentaire de s'en occuper, qui est de dire, cette maladie, elle a un sens, ou cette douleur, elle a un sens, et je vais aller à la rencontre de ce sens pour savoir ce qui se passe, et surtout pour libérer ce que j'ai besoin de libérer, pour pouvoir guérir, et faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Donc remonter à l'origine pour se libérer de la cause. Alors, en général, il y a deux freins à ça, à ce comportement, de vraiment se prendre en main et aller chercher et aller libérer ce qui est à l'origine de notre douleur ou de notre maladie. Le premier frein, c'est je minimise. Bon, de toute façon, c'est pas grave, hein, c'est une petite grippe, ça va passer. Allez, 3 jours au lit et puis ça passe. Bon, ok, oui, ça passe, c'est sûr. N'empêche qu'en faisant ça, on n'a rien réglé, donc ça va revenir. Ça va revenir sous une forme ou sous une autre. Et puis le deuxième écueil, c'est la fatalité. De toute façon, tout le monde a la grippe en ce moment. Je vois pas pourquoi je l'aurais pas. Ou alors c'est l'âge, ou alors mon père avait ça, ma grand-mère avait ça, donc c'est normal que je l'ai, etc. Comme si on était fait pour récupérer toutes les pathologies de notre père, de notre mère, de notre grand-mère, de notre arrière-grand-père, de l'oncle Georges et de la tante Morissette. Bon, moi personnellement, je préfère éviter. Après, vous faites comme vous voulez. Donc ça, c'est la première catégorie, tout ce qui est manifestation physique. Deuxième grande catégorie, grande famille, c'est tout ce que je n'arrive pas à faire. Alors, je n'arrive pas, en vrac, j'arrive pas à trouver une amoureuse ou un amoureux, j'arrive pas à construire une relation de couple durable, j'arrive pas à faire un bébé, j'arrive pas à trouver un boulot. J'arrive pas à garder de l'argent, j'arrive pas à être mince, j'arrive pas à être heureux, j'arrive pas à être moi-même, j'arrive pas à prendre ma place, j'arrive pas à m'affirmer, j'arrive pas à trouver ma place, j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à lâcher prise, j'arrive pas à ressentir, j'arrive pas à dormir. Ah voilà, il peut y en avoir des trucs, j'arrive pas. Hein. Donc ça, une grande famille. Et puis, troisième grande famille. Donc cette fois-ci, c'est plus « j'arrive pas », mais c'est « je ne peux pas m'empêcher ». Donc là, on va retrouver toutes les addictions. Tabac, alcool, drogue, jeux, téléphone. Enfin bon, je ne vais pas vous faire la liste des addictions. On y passerait la soirée. Je ne peux pas m'empêcher de tromper ma femme ou de tromper mon mari. Je ne peux pas m'empêcher les émotions. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur. Je ne peux pas m'empêcher d'être triste. Je ne peux pas m'empêcher d'être en colère. Voilà. Toutes les émotions peuvent y passer. Alimentaire, tout à fait. J'arrive pas à m'empêcher. Donc ça c'est dans les addictions, hein. Je peux pas m'empêcher. Je peux pas m'empêcher de manger du sucre. Je peux pas manger de trop manger. Je peux pas m'empêcher de manger du gras, etc., etc. J'ai pas rencontré. J'ai encore eu personne qui m'a dit je peux pas m'empêcher de manger des fruits ou des légumes. Mais on sait jamais, ça peut arriver, hein. On peut arriver. Je peux pas m'empêcher. Ouais. De saboter une relation, de saboter un projet. J'ai très très régulièrement des gens qui viennent me voir en me disant, je suis le champion du monde ou la championne du monde de l'auto-sabotage. Voilà. Donc voilà, on a une championne du monde au premier rang. Alors, madame, je vais vous dire, comme je dis à tous ceux qui viennent me voir dans ces cas-là, vous avez beaucoup de concurrence. Y a beaucoup de champions du monde dans ce domaine. Alors. Ouais, je peux pas m'empêcher aussi, ça c'est un cas qui revient souvent. Je peux pas m'empêcher de me sentir responsable, en général de ce qui va mal, parce que sentir responsable de ce qui va bien, pareil, je vais pas rencontrer. Ou je peux pas m'empêcher de me sentir coupable. Voilà, ça c'est des trucs qui reviennent très souvent. Donc voilà, il peut y avoir plein d'autres situations, hein, c'est pas complet la liste que je vous fais, mais ça vous donne une petite idée. Du type de choses qu'on peut aller interroger par la méthode dont je vais vous parler, le channeling. Alors, l'intérêt de ce que je vous raconte et l'intérêt de cette méthode, c'est que bien tout ça, on peut aller à la rencontre de ce qui a causé ces difficultés, de la cause de cette douleur physique, de cette addiction, ou d'un truc que j'arrive pas à faire ou que je peux pas m'empêcher de faire. Et le principe du channeling énergétique, c'est ça. Donc, c'est de se connecter. Donc là, c'est moi en tant que thérapeute, hein, en consultation, qui me connecte, qui vais me mettre dans un état de conscience modifié et qui me connecte à vos énergies. Alors, quelques mots sur les énergies. Nous avons tous, en tant qu'êtres humains, une structure énergétique. Ça, je pense que c'est pas un scoop. Et cette structure énergétique, donc nous l'avons en nous, à l'extérieur de nous. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a différentes couches qui représentent différents niveaux de conscience, etc. Mais peu importe. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que cette structure énergétique, eh bien, elle contient absolument tout, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a vécu, tout ce dont on a hérité, tout ce qui a du sens pour nous. C'est présent dans notre structure énergétique. Sauf que c'est présent à un niveau très subtil qu'on a parfois un petit peu de difficulté à contacter. Donc, pour ça, en consultation, moi, je me mets en état de conscience modifiée de manière à pouvoir me connecter aux énergies de la personne. Chez moi, ça passe beaucoup par les mains, dans un premier temps, donc du ressenti par les mains. Et puis ensuite, je canalise de l'information, c'est-à-dire que je demande aux énergies de la personne de me dire pourquoi cette personne est malade ou pourquoi cette personne n'arrive pas à construire une relation de couple durable. Et les énergies me répondent parce qu'elles demandent qu'une chose, c'est à s'exprimer. Parce qu'en fait, toutes ces difficultés que l'on vit, que l'on traverse, ce sont des manifestations de quelque chose qui se passe au niveau de notre âme. Et ce quelque chose, ce sont des mémoires, ce sont des blocages qui ne demandent qu'à être libérés. Donc les énergies, elles le disent. Elles le disent parce que c'est vraiment la raison d'être de la difficulté que la personne traverse. Encore faut-il qu'on soit là pour les écouter et pour les entendre. Donc, lorsque moi je canalise cette information, je la transmets à la personne et puis on ne s'arrête pas là, parce que c'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Derrière, on entame le processus de libération. Et là, pareil, je demande aux énergies de m'indiquer quel est le processus de libération adapté pour la personne. Donc en gros, moi en consultation, je ne fais pas grand-chose parce que tout vient des énergies de mon consultant. Ce sont ces énergies qui parlent, qui délivrent leur message, qui disent d'où ça vient et comment la personne se libère. Et après, moi, j'accompagne la personne dans son processus d'auto-guérison en suivant les indications de ses énergies. Alors, je vais vous donner des exemples hein, de tout ça pour que ce soit bien clair. Alors, pour vous donner mes exemples, je vais déjà vous dire d'où peuvent provenir les difficultés qu'on va contacter lors d'un soin. Donc là, c'est pareil, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est un découpage que j'ai fait en fonction de ce que je rencontre dans ma pratique. Alors, quatre grandes catégories qui sont en fait les grandes catégories de ce que l'on a traversé et ce dont on porte les traces. Il y a, premièrement, tout ce que j'ai vécu. Donc, ce que j'ai vécu entre le jour de ma conception, on va dire, et ce soir, 30 janvier, 18h15. Deuxième grande catégorie, il y a ce que j'ai vécu avant tout ça. Et avant tout ça, eh ben, ce sont mes incarnations passées. Nous avons tous ici vécu un certain nombre de fois dans des incarnations passées. Notre âme s'est incarnée pour suivre son cycle d'évolution, pour avancer dans son cycle d'évolution. Ça peut être des dizaines de vies antérieures, ça peut être des centaines. Voilà, donc un petit paquet d'expériences qui peuvent parfois laisser des traces. Comme si ça ne suffisait pas, troisième grande famille, on a en général, j'ai dit le mot, une famille, et qui dit famille dit héritage. Alors héritage, c'est parfois des sous, mais pas souvent. Mais c'est très souvent, ouais, c'est très souvent des choses dont on se serait bien passé. Ça peut être des maladies, ça peut être des croyances, ça peut être des blocages, etc. Donc tout ce qui vient de la lignée du transgénérationnel. Et puis, parce que c'est pas fini, on a aussi, quatrième famille, l'inconscient collectif. On est aussi le fruit de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été vécu à travers les siècles par toutes les âmes incarnées sur Terre. Rien que ça. Donc ça fait quand même pas mal d'occasions de porter des trucs un petit peu lourds. Alors, première catégorie, ce que j'ai vécu. Je peux vous donner l'exemple d'une personne qui était venue me voir pour des difficultés d'expression. Et en fait, en soin, j'ai recontacté une mémoire de la petite enfance de cette dame. Où tout bébé, elle essayait de s'exprimer auprès de ses parents avec son langage de bébé. Et en fait, ses parents, pour eux, un langage de bébé, ça n'avait aucune importance. Donc, ils ne s'intéressaient pas à ce qu'elle essayait de dire, d'exprimer. Donc, le petit bébé qu'elle avait été. Ils sont malins, les bébés, hein, ils comprennent vite. Elle s'est dit, ils ne s'intéressent pas à ce que je raconte, donc ce que je raconte n'est pas intéressant, parce que forcément, ce sont mes parents, donc ils ont raison, par définition. Ce que je raconte n'est pas intéressant, donc je vais arrêter de raconter des trucs. Je vais me taire. Et elle en a développé la croyance qu'elle a gardée à l'âge adulte, que ce qu'elle avait à dire n'était pas intéressant. Donc là, il a fallu faire un travail pour la libérer de cette croyance, pour lui permettre ensuite de s'exprimer. Alors, pour la petite histoire, la personne dont je parle, aujourd'hui, elle est en train d'écrire un livre. Donc, il y a eu du chemin. Ça, alors, ensuite j'ai dit deuxième famille, les incarnations passées, les vies antérieures. On rencontre très très souvent en soins des expériences de vie antérieure, bien souvent traumatisantes, parce que c'est ça qui marque le plus. Je pourrais vous raconter par exemple, non, celle-là je vais passer. Oui, j'ai eu une personne qui souffrait de peurs récurrentes. Et en soins, on a contacté une scène dans laquelle il avait été guillotiné sous la Révolution française. Et en fait, il portait dans ses énergies actuelles le souvenir du moment du traumatisme, du moment de l'exécution, qui se manifestait par des peurs de diverses natures. Donc ça, c'est un exemple assez typique de traumatisme qui marque. J'ai eu aussi le cas d'un jeune homme qui venait me voir pour. Alors, il y avait à la fois. Alors, il venait me voir pour une dépression et en même temps, il y avait un problème de drogue dure. Mais ce n'était pas sa demande au départ. C'était la dépression. Et en soins, on a contacté une vie antérieure dans laquelle il avait été esclave dans l'Antiquité. Et puis derrière, il y avait aussi, parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des vies antérieures qui se répètent, enfin, ce n'est pas des vies qui se répètent, mais des schémas qui se répètent, tant qu'on n'a pas libéré ce qu'il y avait à libérer en lien avec ce schéma. Et lui, son schéma, c'était qu'il avait remis son pouvoir à d'autres. Il avait donné son pouvoir à d'autres personnes. Alors, d'une manière très très concrète et très physique dans son expérience d'esclave, et de manière parfois un peu plus subtile ou un peu plus imagée dans d'autres expériences. Donc, il y avait différentes vies antérieures qui se manifestaient. Et comme bien souvent dans ces cas-là, ça se manifeste. Il y en a une qui se manifeste de manière très précise, et on sent qu'il y a d'autres vies antérieures derrière, mais on n'a pas le détail parce que c'est un peu le porte-parole, si vous voulez. Donc là, l'esclave égyptien, c'était le porte-parole de toutes ces expériences où il avait remis son pouvoir. Et finalement, ce que m'ont dit aussi ces énergies pendant le soin, c'est que dans son problème de drogue, il y avait aussi ça, il avait remis son pouvoir à la drogue. Donc le travail de libération qu'on a fait, qui lui a permis de réintégrer son pouvoir, a eu un impact à la fois sur le problème de dépression pour lequel il venait me consulter, mais aussi sur son addiction. Alors, bien souvent, hein, ce qu'on fait dans ce type de démarche, ça a des bienfaits sur des sujets qu'on n'imaginait pas. Donc, ça, c'est pas mal parce que on traite des choses sans même le savoir.
Ça s'associe à un recouvrement d'âme, non?
Alors, recouvrement d'âme, ouais, je ne peux pas vous dire pour ce cas précis. Maintenant, c'est clair qu'il y a un travail qui se fait au niveau de l'âme et qui impacte toutes les incarnations de cette âme. Donc, en travaillant dans notre vie présente, sur ce qu'on vit dans notre vie présente, on travaille aussi sur ce qu'on va vivre dans les vies futures. Et quelque part, on travaille aussi sur ce qu'on a vécu dans les vies passées. Quand je dis ça, il faut être précis, on ne modifie pas en soi les événements qui se sont déroulés. L'esclave égyptien, il était toujours esclave, et le jeune homme guillotiné, il était toujours guillotiné, on lui a pas recollé la tête. Mais on modifie le ressenti lié à ces expériences passées. On modifie le ressenti de l'esclave, on modifie le ressenti du jeune homme guillotiné. Et en faisant ça, on modifie les conséquences énergétiques présentes de ces ressentis. Et c'est comme ça qu'on arrive à apporter du bien-être et de la libération aux personnes. Et bien sûr, on modifie ça pour toutes nos vies futures, puisque c'est un soin qui se passe au niveau de l'âme. Alors, je pourrais vous citer plusieurs expériences où on a contacté des vies antérieures de sorcières. Je pense que si on avait les moyens de rechercher les vies antérieures de toutes les personnes qui sont sur le salon, on aura un certain nombre de sorcières là et un beau bûcher en perspective. Non, mais enfin bon, je rigole, mais les mémoires de sorcières, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement avec tout ce qu'il peut y avoir comme difficulté derrière que vous pouvez imaginer. Alors, je vais passer au point suivant, c'est tout ce qui est transgénérationnel. Donc, tout ce qui vient de ma lignée. Alors là aussi, il y a plein de choses. J'ai eu tout à l'heure, avant de venir ici, j'avais une consultation et j'avais une dame qui portait un héritage familial dans lequel, en fait, c'était une croyance que il était bon pour elle et qu'il était nécessaire de toujours imaginer le pire scénario qui soit. Et en fait, la croyance était que imaginer ces scénarios catastrophes, c'était de la prudence. Il y avait une confusion entre pessimisme et prudence qui lui venait de sa famille. Et ça remontait à plusieurs générations, bien entendu. Donc là, on a fait un travail pour la libérer de ça, pour laisser partir cette croyance et pour accueillir une énergie de confiance qu'on a installée à la place du pessimisme. Voilà, ça c'est un exemple. J'ai eu quelqu'un qui venait me voir pour la peur de manquer. Et là, pareil, on a contacté un héritage transgénérationnel qui était lié à un complexe d'infériorité en raison des origines modestes de sa famille. Pareil, on était à 4 ou 5 générations en arrière. La personne qui venait me voir était plus du tout dans les mêmes conditions, dans le même milieu social, que, sa famille d'il y a 4 ou 5 générations, mais elle avait quand même gardé, inconsciemment, bien sûr, ce complexe d'infériorité qui se manifestait par la peur de manquer, avec derrière tous les comportements qui sont liés à la peur de manquer. Donc en général, quand on a peur de manquer, on remplit. Donc elle remplissait au début son appartement, après elle remplissait sa penderie, ça fait surtout mal à la carte bleue. Et puis après, elle s'est mise à remplir les placards, le frigo, le corps, bien sûr, manger, manger, etc. Et derrière, les problèmes apparaissent. Oui, alors, dans les expériences, dans les héritages transgénérationnels, un autre exemple intéressant, une personne qui souffrait de peur de l'autre. Donc quand je dis peur de l'autre, elle se sentait tout le temps agressée, ou en tout cas risque d'agression. Et elle me disait, quand je suis dans une pièce et que quelqu'un rentre dans la pièce, j'ai envie de me cacher dans la moquette. Alors, comme les moquettes sont rarement assez épaisses, pour ça marchait pas et elle souffrait de l'arrivée de la personne et de tout ce qui pouvait arriver. Et là, en fait, on a contacté une mémoire de son arrière-grand-mère qui avait été agressée et violée tout au long de sa vie. Agressée, différentes formes d'agression, peu importe. En tout cas, mécanisme d'agression répété tout au long de sa vie et qui ensuite en avait conclu, qui avait développé la croyance que la vie était forcément basée sur un rapport attaque-défense, donc sur un rapport de force. Et elle avait fait ce beau cadeau à son arrière-petite-fille, elle lui avait transmis cette croyance qu'on a ensuite libérée. En soins pour permettre à ma cliente de ne pas avoir envie de se cacher dans la moquette en permanence. Et pour faire ça, donc je lui ai proposé, à la demande de ses énergies, je lui ai proposé de se connecter à son arrière-grand-mère, d'un point de vue énergétique, et d'envoyer toute l'énergie à son arrière-grand-mère pour lui permettre d'expérimenter des relations qui soient basées sur autre chose que des rapports de force. Donc il y a eu de l'énergie d'amour, il y a eu de l'énergie de compassion, d'empathie plutôt, il y a eu plein de choses pour modifier les ressentis énergétiques au niveau de l'arrière-grand-mère et en conséquence au niveau de l'arrière-petite-fille. Oui, il y a eu un truc aussi qui a été important de faire lors de ce soin. Les énergies de ma cliente m'ont dit ce type de rapport humain basé sur l'amour, basé sur l'empathie qui vient se substituer au rapport de force. Eh bien, cette expérience, il faut aussi la partager avec les bourreaux. Donc en fait, j'ai demandé à ma cliente, lorsqu'elle était en lien avec son arrière-grand-mère, de partager ça avec les bourreaux de son arrière-grand-mère. Parce qu'on nous disait, finalement, les bourreaux sont leurs premières victimes, et il faut aussi leur faire bénéficier de ce soin pour pouvoir nous libérer de ce qu'on a, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a traversé ou de ce que l'on porte. Donc ça, je trouvais ça intéressant comme enseignement, et c'est pour ça que je le partage avec vous. Et puis j'en viens à mon quatrième point, qui est l'inconscient collectif. Alors dans l'inconscient collectif, on va retrouver beaucoup de mémoires qui sont liées à des grands traumatismes. Donc, par exemple, l'esclavage, j'en ai dit deux mots déjà tout à l'heure, c'était dans une vie antérieure, mais l'esclavage, les guerres, les famines, la pauvreté, l'exploitation, la souffrance sous toutes ses formes, tout ce qui peut être récurrent et qui, au final, constitue des égrégores de souffrance qui peuvent se manifester dans nos énergies et donc dans notre vie et dans notre corps. Par exemple, une personne qui était venue me voir parce qu'elle avait fait une reconversion professionnelle après une première vie professionnelle qui ne la satisfaisait pas. Elle avait choisi son métier, elle était devenue masseuse, elle adorait ça et elle me dit, je ne comprends pas, j'ai tout. Pour être heureuse, je fais le métier que je voulais faire. J'en ai suffisamment bavé pour arriver là. Et puis, je ne m'épanouis pas. Alors que j'aime ce que je fais. Il y avait quand même un truc un peu incohérent. On va interroger ce manque d'épanouissement. Et ce qui ressort, c'était une mémoire de l'inconscient collectif qui portait les souffrances, comment dire, souffrances d'être soi-même. Donc en fait, c'était des personnes qui avaient souffert d'être elles-mêmes dans un contexte qui ne le leur permettait pas. Donc il y avait notamment des mémoires, alors il y avait beaucoup de militaires. Il y avait en gros tout ce qui porte un uniforme qui était présent. Et il y avait également des manifestations beaucoup plus modernes avec le diktat de l'apparence physique dans notre société moderne. En gros, tout ce qui était normatif, quoi. Et dans tout ça, les personnes qui essayaient d'être elles-mêmes et d'être différentes, elles étaient en souffrance. Et ma cliente, elle portait cette souffrance-là. Donc après, on a fait tout un travail pour libérer ce lien en fait qui s'était installé dans ses énergies, ce lien entre le fait d'être soi-même et la souffrance. Autre exemple dans l'inconscient collectif, une personne qui avait des difficultés dans son rapport à l'argent et qui avait beaucoup beaucoup de mal à vendre ses prestations. Eh bien, dans ses énergies, il y avait la mémoire d'expériences, de personnes qui avaient souffert d'être évaluées par l'autre, notamment en raison de leur performance physique. Donc il y avait des mémoires d'esclaves, il y avait des mémoires de serfs, de familles, de paysans au Moyen-Âge. Il y avait des mémoires de personnes faibles, d'une manière générale. Il y avait des mémoires d'enfants à l'école. En tout cas, de plein de situations dans lesquelles il y avait ce mécanisme d'évaluation qui apportait de la souffrance, qui générait de la souffrance. Et au final, il y avait une confusion qui s'était installée entre la valeur des actions de la personne et la valeur de l'être. Alors on peut comprendre, hein, parce que l'esclave, c'est clair que concrètement, il valait ce qu'il était capable de faire. Il y avait une certaine logique. Mais aujourd'hui, la personne qui était venue me voir, si elle n'arrivait pas à valoriser ses prestations, si elle n'arrivait pas à vendre son savoir-faire, eh bien c'était parce que elle confondait la valeur de l'être et la valeur de ses actions. Donc il a fallu qu'on travaille là-dessus pour libérer cette croyance, pour libérer cette confusion et pour lui permettre d'accepter, d'intégrer le fait que l'être a une valeur intrinsèque qui ne dépend pas de la qualité des prestations et que les prestations ont par ailleurs leur propre valeur. Voilà. Et à partir du moment où on a bien fait cette séparation, elle a commencé à voir les choses différemment et à être capable derrière de proposer et de valoriser ses prestations. Dans le même ordre d'idées, je vais juste surveiller l'heure pour garder un petit peu de temps pour vos questions si vous en avez. Bon, je passe l'exemple suivant. Je préfère avoir un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Donc, ce qu'on fait en channeling énergétique, voilà, c'est ça, c'est remonter à la cause des difficultés que l'on traverse. Premièrement, je remonte à la cause. Deuxièmement, je libère ou je répare cette cause, cette origine. Et troisièmement, j'intègre dans mon présent les conséquences de cette libération. Donc j'avance en étant libéré et j'avance dans une vie nouvelle et en général meilleure. Autre manière de l'appliquer, ce que je pratique aussi régulièrement parce que j'ai beaucoup de demandes de cette nature, c'est pour répondre à des interrogations, notamment quelle est ma mission de vie, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre, dans cette vie. Alors ça peut être des demandes d'ordre professionnel. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont un projet de reconversion, mais elles ne savent pas vers quoi s'orienter. Elles savent que ce qu'elles font aujourd'hui, ça ne leur plaît pas, mais elles ne savent pas quoi faire à la place. Donc dans ces cas-là, on va interroger les énergies pour savoir quel est le talent ou quels sont les talents de la personne et dans quel domaine ça peut s'appliquer. Où est-ce qu'elle va être capable de s'épanouir professionnellement ? Ça peut être des demandes aussi dans un domaine personnel ou spirituel. Qu'est-ce que mon âme me demande de faire dans cette vie présente ? Ça peut être des demandes pour aller à la rencontre de ses guides. Quels sont les messages que mes guides ont à me fournir ? Voilà, ça peut être des tas et des tas de demandes qui rentrent pas forcément dans le cadre des douleurs ou des problèmes ou enfin si c'est quand même parfois des blocages hein, quand on veut changer de métier qu'on sait pas quoi faire on est bloqué voilà ça peut être très varié. Attention, pause. Alors, pour conclure, et après je vous passe la parole, comment j'applique cette méthode thérapeutique en pratique? Repose. Bon, ça c'est le lot des conférences à 18h, c'est normal. Donc, cette méthode, alors je précise que le channeling énergétique, c'est une méthode que j'ai créée. Je me suis inspiré d'un certain nombre de formations que j'ai fait dans le domaine énergétique d'abord et ensuite en chamanisme. Ce que moi, je me suis toujours attaché à essayer de remonter à l'origine du problème. Alors que dans les formations que je pouvais faire, en général, ça restait finalement assez symptomatique. Et c'est pour ça que j'ai développé cette méthode très personnelle, de manière à pouvoir aller à la rencontre de l'origine de la difficulté, parce que c'est, à mon sens, le seul moyen de se libérer définitivement. Alors, j'applique ça d'abord en thérapie individuelle. Donc, tous les exemples que je vous ai cités, ce sont des cas de consultation individuelle. Sachant que dans une consultation, on traite une cause d'une difficulté. Le jeune homme qui avait été guillotiné sous la Révolution française, en une consultation, on a contacté cette mémoire et on a apaisé et libéré cette mémoire. La difficulté pour laquelle cette personne était venue me voir ne s'est pas forcément libérée en une séance, parce qu'une difficulté peut avoir plusieurs causes. C'est bien souvent multifactoriel. Mais parfois ça arrive, qu'en une séance, il y a une seule cause, une séance, ça libère complètement et définitivement la cause qu'on a contactée. Donc s'il n'y a qu'une cause, une séance suffit. C'est en tout cas en général assez rapide, puisque sur une problématique, alors il n'y a pas de règle, mais bien souvent au bout de 3-4 séances, c'est soit réglé, soit en bonne voie. Deuxième type d'application du channeling énergétique, je propose également des ateliers de groupe. Donc ce sont des petits groupes de 4 personnes qui là se réunissent pendant une journée lorsque il y a 4 personnes qui ont envie de travailler le même thème. Alors le thème, ça peut être les relations familiales, les relations amoureuses, la sexualité, l'argent. Vous voyez, c'est des thèmes assez généraux comme ça. Quand j'ai des demandes de 4 personnes qui veulent travailler le même thème, on se regroupe tous les 4, pas tous les 5 avec moi, sur une journée. Et sur une journée, je fais 4 soins collectifs. Donc à chaque fois, le soin s'adresse aux 4 personnes. Donc chacun reçoit 4 soins. Et ça permet là de contacter des mémoires qui sont communes aux 4 personnes, parce qu'il y a quand même des grandes familles de mémoire qu'on retrouve, et comme les groupes se font pas par hasard, les 4 personnes qui sont là, eh ben elles vont forcément avoir des choses en commun qu'on va être capable de libérer pendant la journée. Donc ça, c'est un travail assez intensif. Parfois ça peut être un peu fatigant, un peu éprouvant, mais ça permet de bien avancer sur le sujet, sur le thème qui a été retenu pour chacun des 4 personnes. Et puis, dernier type d'intervention, je propose des stages, donc des formations au channeling énergétique. Alors, il y a différents niveaux de stages, mais le plus répandu est de toute façon le premier. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, ça sera celui-là. C'est une formation à la méthode qui se passe sur 6 jours, donc 2 fois 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche, à chaque fois, espacé de 2 ou 3 semaines. Et en 6 jours, on arrive à se former et à pratiquer toute la méthode que je vous ai expliquée là. Soit sur soi, déjà, ce qui permet d'être autonome et comme ça, dès qu'on a un pépin, une maladie ou qu'on identifie un blocage, etc., on peut se faire son propre soin. C'est quand même pratique, ça évite d'aller chercher le thérapeute à l'autre bout de Paris qui n'est pas forcément disponible. Et puis voilà. Et puis on peut aussi le pratiquer sur ses proches ou pourquoi pas dans une pratique professionnelle si vous êtes peut-être déjà thérapeute ou si vous envisagez de l'être. Donc voilà, le stage de 6 jours à l'issue duquel vous êtes totalement autonome sur la méthode, sachant que, je précise, c'est un stage qui est vraiment basé sur la pratique. Il y a très très peu de théorie parce que j'aime pas ça, la théorie. Et puis parce que c'est pas ça qui est le plus efficace. Le plus efficace, c'est vraiment de pratiquer et de manière à permettre à chacun ou à chacune de non seulement avoir assimilé, avoir reçu une méthode, mais vraiment l'avoir assimilée, l'avoir transformée à sa manière pour pouvoir l'appliquer. Et à l'issue des stages, il n'y a pas deux personnes qui appliquent le channeling énergétique de la même manière. C'est vraiment chacun en fonction de la personne qu'il ou elle est, en fonction de son vécu. Et ça va donner des résultats très différents d'une personne à l'autre. C'est aussi ça qui fait la richesse de ces stages et de cette pratique. Voilà, je m'arrête là pour répondre à quelques questions. Je précise que j'ai des cartes de visite sur la table qui est à la sortie là-bas et sur la table qui est ici. J'ai également un descriptif des stages si ça intéresse des personnes. Et dernière information, je serai présent sur le salon Parapsy si certains d'entre vous viennent y mettre les pieds. Là, j'aurai un stand, le stand B12, donc de mercredi du 1er au 6 février. Voilà. Voilà, je vous laisse la parole pour 14 minutes de questions.
Demander quel est le prix d'une de vos consultations?
Alors, les tarifs, oui. Une consultation qui dure en général 1 heure, à quelques minutes près, coûte 90 euros. Je propose également des consultations qui durent 1h30 à 125 euros. Mais en général, les personnes qui viennent me voir commencent avec une consultation d'une heure, parce qu'on fait vraiment le soin dans son intégralité en une consultation d'une heure. Et puis après, quand on a envie d'en faire un petit peu plus, on fait de l'harmonisation énergétique en plus. Ça peut intéresser certaines personnes. Je le précise, mais plus à titre anecdotique. Tant que je suis dans les tarifs, donc ça, c'est la consultation. L'atelier de groupe de 4 personnes sur une journée, c'est 150 euros par personne pour la journée. Et le stage de 6 jours, c'est 720 euros pour les 6 jours, sachant que là je fais un tarif salon, alors jusqu'à ce soir 19h, si vous vous inscrivez. Non, je rigole. Je fais un tarif salon jusqu'à la fin du salon Parapsy, donc jusqu'au 6 février. Donc si vous m'appelez dans les jours qui viennent pour me dire j'ai envie de m'inscrire, ça sera le tarif salon qui est à 650 au lieu de 720. Voilà.
Problème. Est-ce que vous vous interrogez pour en choisir un qui vraiment est plus. Et puis, quand.
Ouais. Alors, quand il y a plusieurs problèmes, comment est-ce qu'on choisit? Qui choisit? Comment on fait? Eh ben, je vais vous laisser le choix. Je vais vous demander, et en général, vous allez me le dire, même si vous n'en avez pas conscience, quand vous allez me parler, vous allez me dire à un moment, mais ça, c'est vraiment le truc qui m'empoisonne la vie, quoi. Donc en général, ça sort assez naturellement. Si vraiment ça sort pas dans l'échange préalable, on demande en soin à vos énergies, on pose tous les problèmes et on demande à soigner le plus urgent pour vous. Et c'est vos énergies qui le diront parce que si vous ne le savez pas, elles, elles le savent. Alors, les problèmes familiaux, oui, c'est possible, c'est tout à fait. Si c'est vous qui êtes affecté par le problème, voilà. Si c'est pour quelqu'un d'autre, je dévie un petit peu de la question, mais c'est intéressant de le dire. Si c'est pour quelqu'un d'autre, ça marche pas, hein. Il faut que ce soit pour vous. Voilà. Ça m'est arrivé, j'avais une dame qui avait des difficultés relationnelles avec sa sœur, et elle est arrivée en me disant. Ma sœur, elle est comme ci, elle est comme ça, etc., etc. Bon, je lui dis, c'est pas votre sœur qui est là, je vais pas faire un soin sur votre sœur. Elle m'a rien demandé. Si la personne demande rien, j'ai pas l'autorisation de faire un soin dessus. En revanche, ce que je lui ai proposé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur ses relations avec sa sœur. Parce que ses relations avec sa sœur, ça, ça lui appartient.
Avec une personne étrangère qui n'est pas de la famille.
Alors, avec une personne étrangère, ça marche. Vous voulez dire étrangère à la famille ? Alors, votre beau-frère, ça peut marcher si on travaille sur vos relations avec votre beau-frère. Mais si c'est sur les relations entre votre sœur et votre beau-frère, non, c'est à eux de venir me voir dans ce cas-là. Voilà. Et si c'est vos relations avec votre sœur ou vos relations avec votre beau-frère, oui, ça on peut intervenir. Autre question ?
Vous avez dit que la formation faisait en 6 jours, mais comment on peut savoir si en 6 jours on devient intuitif ? C'est pas évident.
Alors, c'est pas évident, mais en fait, concrètement, on y arrive. On y arrive, c'est même très... Alors, je ne vais pas dire surprenant, parce que moi, je le vois et à chaque fois, ça se produit comme ça. Mais en général, les personnes qui participent au stage sont surprises de voir à quel point ça vient vite. C'est facile. C'est facile, parce que on a tout ça en nous. Le truc, c'est d'arriver à se mettre en condition pour pouvoir entendre les voix ou pour pouvoir entendre les manifestations énergétiques. Et ça, c'est tout l'objet du stage, justement, où moi, je vous amène par un certain nombre de pratiques énergétiques, de méditation, etc., à contacter cet état d'être qui permet de se connecter à ces énergies subtiles et à ces informations. Mais donc, et ça fonctionne très, très bien en 6 jours. Vraiment, on y arrive, quoi. Et je suis dans Paris, oui, le cabinet est à côté de la gare Saint-Lazare. Madame ?
Oui, vous avez parlé de soins. Je voudrais savoir comment se déroule un soin.
Alors, dans un soin, on déroule le processus que j'ai décrit tout à l'heure. Donc, en fait, concrètement, la personne qui vient me voir est allongée sur la table de massage et est en état de relaxation. Simple relaxation. Je demande pas, j'essaye pas de l'emmener en état de conscience modifié. Moi, je me mets en état de conscience modifié. Il y a une première phase dans laquelle je vais contacter. Alors, je passe. Il y a eu un entretien préliminaire pour définir l'objectif, etc. Évidemment. Une fois que je me mets en état de conscience modifié, je vais faire une première phase de ressenti énergétique. Donc là, avec les mains, je vais investiguer au niveau des différentes énergies de la personne, ce qui va me permettre de ressentir un certain nombre de choses, un certain nombre de difficultés ou de choses qui vont bien dans la configuration énergétique de la personne, et surtout de créer un lien énergétique entre la personne et moi. Et après, je commence à poser les questions, et c'est là que les informations me viennent, souvent sous forme d'images, parfois sous forme de connaissances directes. Je dis, il y a la croyance que... être soi-même, ça fait souffrir. Je ne sais pas pourquoi je le sais, mais je le sais. Je le perçois de la part des énergies. Mais la plupart du temps, ce sont des images qui, au début, sont un petit peu obscures, parfois un peu symboliques. Et puis, ça se précise petit à petit. Et je raconte tout ça à la personne. Et une fois qu'on a toutes les infos sur l'origine du problème, je commence à questionner sur comment on peut aider la personne à se libérer. Et là, les énergies vont exprimer ce qu'elles ont à exprimer pour aider la personne à se libérer. Et moi, je vais transmettre ça à la personne. Donc, je vais lui dire, je vous propose de vous connecter à votre arrière-grand-mère qui a été agressée toute sa vie et de lui envoyer de l'amour, de lui envoyer de l'empathie, de manière à ce qu'elle puisse s'apaiser. Je vais dire à la personne, je vous propose de vous connecter à l'esclave que vous avez été en Égypte ancienne et à aider ce jeune garçon à retrouver son pouvoir, même s'il est dans sa condition d'esclave, etc. etc. Enfin, voilà, c'est des exemples que je vous donne, il n'y a pas de règles, bien sûr, puisque c'est différent à chaque fois. Et ensuite, il y a, parce que c'est les grandes étapes qu'on retrouve quasiment à chaque fois, il y a une phase d'intégration d'une autre énergie. Donc, par exemple, pour le jeune homme qui avait donné son pouvoir, c'était une réintégration de son pouvoir d'un point de vue énergétique. Donc là, il y avait eu un travail qui avait été fait, je pense probablement au niveau du deuxième chakra, mais je ne m'en souviens pas trop, pas vraiment dans le détail, donc je reste prudent. Ça peut être au niveau de certains chakras, ça peut être global au niveau de la structure énergétique. Voilà, ça très très variable. Parce que c'est chaque cas est unique. Bon, on va arrêter là. Pardon. Alors les cartes de visite, j'en ai là et il y en a sur la table qui est là-bas. Alors c'est qu'elles ont été toutes emportées, mais il en reste ici. Voilà. Je vous remercie de votre attention et